La science CQFD, Natacha Triou.
On connaît tous l'adage, on n'arrête pas le progrès. Et si justement, on l'arrêtait le progrès ? Le progrès, cette flèche du temps qui va vers l'avant, vers le mieux. Une notion qui accompagne l'histoire des 150 dernières années. L'innovation, ce mot totem de notre époque, un buzzword omniprésent. Mais maintenant, c'est plus pareil, ça change. Face aux défis sans précédent de la crise climatique, est-ce que notre manière de penser le développement des techniques est à la hauteur de ce qu'il faut affronter ? Et si on arrêtait le progrès ? Jean-Baptiste Frézos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien des sciences, des techniques et de l'environnement. Avec nous, en ligne également, François Jarige, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien des sociétés industrielles, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne et l'auteur de « On arrête parfois le progrès, histoire et décroissance », un essai qui vient de paraître aux éditions L'Échappée. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct des studios de France Culture. Vous qui nous écoutez, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, sur notre fil à Science CQFD, en complément d'écoute. Alors l'idée de cette émission, ce n'est pas un débat pour ou contre les technologies, ce qui n'a pas trop de sens puisque l'être humain est un être technique. On dépasse donc le débat caricatural technophile contre technophobe et on revient un peu en arrière sur cette histoire des sciences et sur l'histoire d'un dogme, celui du progrès technique. Le progrès est-il bon ? La question est posée en 1947, c'est notre archive du jour.
Je ne vois pas, quant à moi, sur le thème du progrès, aucune opinion positive possible. Mais plutôt des questions à poser. J'admets certes que le progrès technique est un fait acquis, évident. Ce progrès, dans l'ordre de la médecine par exemple, a apporté la guérison de quelques maladies. Mais que comptent ces quelques avantages si demain se réalise l'application de la guerre bactériologique ? La moindre pastille lâchée dans l'atmosphère aura vite fait de tuer non seulement les 2000 personnes guéries de la rage, mais quelques centaines de milliers par surcroît qui vivent dans la même ville. Je demande donc en quoi le progrès technique est lié favorablement à l'amélioration de l'homme. En quoi le rendra-t-il moins cruel ? Et ce qui, à mon avis, est encore plus important, en quoi ce progrès le rendra moins stupide ? Quelle espérance peut nous être donnée ? Je le demande, car nous devons naturellement rester ouverts à tout espoir. Je suis contre le désespoir systématique. Et ce doit être le miracle de l'esprit humain, que rien ne peut le faire renoncer au goût de vivre, rien, pas même cette application jusqu'ici néfaste des découvertes des savants.
François Jarige, une réaction à cette archive ?
Oui, c'est un témoignage assez classique selon lequel ça fait très longtemps que certains doutent du progrès. On est en 1947. Dans la foulée de la barbarie de la Seconde Guerre mondiale, de l'explosion de la bombe nucléaire. Donc il y a beaucoup d'interrogations. Il y a des écrivains comme Bernanos, comme Jacques Ellul qui s'en prennent au progrès. Et puis dans le même temps, il y a toute une série de projets qui visent à relancer les promesses modernisatrices avec la reconstruction, avec l'avenir qui doit s'ouvrir désormais et qui doit être de plus en plus modelé par le progrès. Donc ce que nous dit cette archive, c'est qu'en fait, on n'a jamais vraiment cru unilatéralement, de façon stupide, au progrès. Il y a toujours eu des réflexions, des interrogations qui ont fluctué dans l'histoire. C'est peut-être ça dont on va parler, on va pouvoir y revenir. Ça a varié selon les périodes. Et le moment 47 est un moment significatif à cet égard, où on est à la fois au début de la période d'expansion dite des Trente Glorieuses, où il y a un cadrage modernisateur et une réactivation de ce discours du progrès. Et en même temps, il y a en parallèle toute une série d'alertes qui ne cessent d'être lancées sur les ambivalences. Parce que le progrès, on va y revenir, mais en fait, c'est une catégorie un peu vide, indéterminée, il faut préciser ce que ça désigne. Et puis, si on parle du progrès technique, il est ambivalent, c'est-à-dire qu'il permet des avancées dans certains domaines qui sont souvent mis en scène par les publicitaires, mais il rend invisible d'autres problèmes, d'autres dégâts qui souvent sont révélés progressivement au fur et à mesure du déploiement de ce qu'on appelle le progrès. Donc on voit que c'est une catégorie discutée et qui n'a cessé d'être discutée.
Jean-Baptiste Frézos, en réaction à cette archive.
Bah effectivement, c'est-à-dire si on prend le cas de la bombe atomique, à la fois on a le journal Le Monde qui dit une révolution scientifique, et donc c'est toujours ce qu'on cite pour dire vous voyez à quel point ils avaient rien compris, etc., et à quel point ils sont bêtement modernistes. Mais en fait, il y a plein d'autres articles dans Le Monde qui disent c'est une horreur absolue. Évidemment, il y a plein d'articles dans la presse française qui décrivent ce que c'est que les radiations, les chairs brûlées, etc. Donc il y a enfin, une parfaite conscience de l'horreur qui vient d'être commise. Il y a aussi, alors c'est vrai, hein, 45, 46, tout plein de, surtout aux États-Unis, de textes sur le nouvel âge atomique qui s'ouvre, absolument formidable. Mais en même temps, on s'en moque. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui rigolent de ces promesses de voyage intersidéral avec l'énergie atomique, ou même de bateaux atomiques, et plein aussi d'experts économistes qui montrent, enfin, qui expliquent avec des rapports de 500 pages à quel point l'atome, ah, ça va pas changer grand chose en fait, hein. Enfin, concrètement, c'est pas non plus une telle révolution, quoi. Pour produire de l'énergie, a priori, les centrales atomiques seront difficilement compétitives par rapport au charbon, ce en quoi ils ne se sont pas trompés. Une petite statistique amusante, en ce moment, dans le monde, on produit plus d'énergie avec du bois qu'avec de l'atome. Vous voyez, ce fameux grand âge atomique, en fait, jamais personne n'a cru, et de fait, ils avaient raison de pas y croire, quoi.
Alors, sur cette notion de progrès, sur cette définition, on a entendu, voilà, cette interrogation de 1947. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut définir le progrès, à Jean-Baptiste Frézos? Vous avez dit, c'est une catégorie vide.
Alors, si c'est...
Pardon, François Jarry, excusez-moi, je viens de m'emmêler les pinceaux.
Vous voulez que je réponde?
Oui.
Oui, oui, bah, oui, c'est moi qui dis une catégorie vide. Donc, on peut dire très brièvement le mot progrès. Bon, ça vient du latin progressus, ça veut dire aller de l'avant. Mais le terme, dans un premier sens, il n'est pas connoté ni péjorativement, ni négativement, ni positivement. Il est d'abord utilisé dans le langage militaire, en fait, pour dire, par exemple, dans l'armée, dans le langage militaire, on disait à l'époque moderne qu'une armée progressait. Ça voulait dire qu'elle avançait. Et puis, on va voir se mettre en place, au cours de l'époque moderne, un nouveau rapport social au temps. Ce qu'il faut bien voir, c'est que chaque société construit un rapport au temps. Ça peut être un rapport fondé sur l'idée d'un éternel retour, sur l'idée d'un déclin, ou sur l'idée d'une avancée. Donc, c'est ce que certains philosophes appellent des régimes d'historicité. C'est-à-dire que la manière dont une société agence la relation entre le présent, le passé et le futur. Or, le régime d'historicité progressiste considère que l'avenir sera meilleur que le passé. Et on voit cette représentation du temps se mettre en place très progressivement, globalement, aller avec la modernité. Mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que jusqu'au 19e siècle, l'idée de progrès, elle n'est pas associée aux techniques, elle n'est pas associée à la puissance productive. Elle désigne l'essor du commerce, l'essor des mœurs, l'essor des savoirs, de la philosophie. Je pense que ce qui est important, c'est qu'au milieu du 19e siècle, globalement, on va voir disons que cette notion de progrès est de plus en plus associée à la puissance productive des outils techniques. Et donc, on va voir apparaître une obsession pour le progrès technique qui devient, qui dessine un temps linéaire, évolutionniste, projeté vers l'avenir, selon lequel l'avenir sera meilleur que par le passé, et cet avenir meilleur que par le passé sera produit par des outils techniques de plus en plus puissants, efficaces, qui vont permettre de résoudre tous les problèmes, que ce soit des problèmes énergétiques, sociaux, environnementaux, et peu à peu, en fait, le progrès va se refermer sur cette conception, pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir, mais je ne veux pas être trop long.
Jean-Baptiste Frézos, hein, vous êtes tous les deux historiens, je me tourne également vers vous, hein, pour comprendre comment ce mot a progressé au fil du temps et des périodes, hein, petit à petit.
Alors, je crois qu'en fait, il faut effectivement... C'est ouais, une grosse baudruche conceptuelle, cette affaire, ça ne veut pas dire grand-chose. Et en fait, les vrais discours progressistes, c'est un peu des discours de banquet de Troisième République, quoi. C'est-à-dire, en fait, c'est un discours motivationnel aussi. Je crois qu'il ne faut pas lui accorder tant d'importance que ça. Moi, ce qui me frappait dans ce que j'ai pu étudier sur les controverses technologiques et les débats technologiques, je travaillais sur la vaccination. Alors, c'est au 19e siècle, vous allez me dire, oui, on croyait au progrès, etc. Mais enfin, les parents, ils avaient peur pour leurs enfants. Et ceux qui vivent au 19e siècle, au grand siècle du progrès, ça ne change strictement rien. Ils ont beau avoir lu Jules Verne, etc. Ils vont se poser des questions sur la sécurité des vaccins, etc. Tout comme maintenant, vous voyez, il n'y a rien vraiment de... Pareil, j'ai beaucoup travaillé sur la pollution, les usines chimiques qui polluent, etc. Vous êtes voisin d'une usine chimique, vous avez beau vivre au siècle du progrès, ben, vous n'êtes pas content, vous luttez, vous protestez, vous faites des procès. Donc voilà, vraiment se méfier de ces idées de périodisation où on aurait été progressiste et puis maintenant on serait sorti de cette confiance un peu aveugle dans le progrès, qui est un discours extrêmement gratifiant, parce qu'il y a eu ce discours qui était très à la mode à partir des années 70 et en France on l'a encore dans les années 90-2000, hein, en disant on est rentré dans des sociétés nouvelles un peu inquiètes, précautionneuses, etc. Et en fait c'est un discours très technophile. Ça sert à donner l'impression que ça y est, maintenant qu'on est inquiet, qu'on est précautionneux, on a un progrès maîtrisé, en fait. Donc c'est un discours très gratifiant qui est historiquement faux.
Mais en tout cas, c'est au XIXe siècle que ce sens s'installe, la corrélation du mot progrès avec l'idée d'un accroissement des forces productives et un meilleur contrôle scientifique de la nature, qui est de plus en plus puissant, François Jarige.
Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-Baptiste. Quand on s'intéresse en historien à ce discours sur le progrès, on se rend compte qu'il passe son temps à être critiqué, avec des phases d'intensification et des phases où la critique est plus forte. Dès les années 1830, le philosophe Charles Fourier expliquait que le discours du progrès, c'est du jargon qui ne veut pas dire grand-chose, qui dissimule toute une série de problèmes. Ce que je veux souligner, c'est que ce discours du progrès, en fait, a une fonction politique. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il est mobilisé, où il surgit. Par exemple, je me suis intéressé à l'expression « on n'arrête pas le progrès ». Cette expression, on peut la dater assez précisément dans ses usages médiatiques. Elle apparaît autour de 1900, elle apparaît dans un contexte très singulier qui est l'émergence de l'industrie automobile, les développements de l'automobile dans un contexte où personne ne veut de l'automobile, où l'automobile, on ne comprend pas trop les usages, ça apparaît comme une sorte de loisir, de distraction pour les riches. L'État entend réglementer, notamment pour interdire les courses automobiles dans la société pour éviter les morts sur les routes. Et le lobby automobile qui se construit à l'époque et la presse automobile va pas cesser de parler, on n'arrête pas le progrès pour désigner l'imposition de la voiture, avec l'idée qu'on ne peut pas réglementer. Il y a même en Suisse, on prend toute une série de législations pour essayer de réglementer la voiture. On essaye de limiter très fortement la circulation automobile. Et tout ça, effectivement, va entraîner... en fait, c'est un discours médiatique. C'est un discours médiatique porté par un certain nombre d'acteurs qui veulent défendre leur position, ou qui veulent faire avancer leur objet ou créer des marchés pour cet objet, donc créer du désir. Donc en présentant l'automobile comme une sorte de marche inéluctable du progrès qui prendrait la suite du chemin de fer, qui a joué un rôle très important dans cette idée que le progrès était une sorte de locomotive qu'on pouvait pas arrêter, tout ça s'articule en fait à des moments de débat sur certains grands aménagements, certains grands équipements techniques qui sont discutés dans la société. Et donc il s'agit d'affirmer une sorte de déterminisme qu'on ne peut pas lever. Mais évidemment, les acteurs de l'époque, c'est précisément parce que beaucoup ne croient pas au progrès qu'on trouve dans les discours politiques, dans un certain nombre de discours médiatiques, dans des justifications d'acteurs économiques, cette émergence du thème du progrès pour mieux cadrer les débats.
Si je peux me permettre une anecdote historique, en fait, en 1910, le canton des Grisons en Suisse interdit l'automobile individuelle. La voiture individuelle n'est pas tolérable parce que ça abîme les routes, donc il faut payer plus d'impôts, ça fait une concurrence au chemin de fer qui est une compagnie nationale, donc il va falloir payer plus d'impôts pour subventionner les chemins de fer, et donc c'est interdit. Et par 10 fois, il y a des référendums d'initiative populaire organisés par l'Automobile Club Suisse pour casser cette interdiction, et 10 fois les habitants du canton des Grisons vont dire non, on ne veut pas d'automobile individuelle, jusqu'en 1928 quand même, donc ça c'est tard. Et ce qui est intéressant, c'est que les débats sont évidemment beaucoup plus intéressants que pour ou contre l'automobile, ce qui ne veut rien dire, parce que par exemple les camions sont autorisés. Un camion, c'est quand même beaucoup plus efficace pour transporter une charge lourde que des chevaux avec une charrette. Les ambulances sont autorisées, les médecins ont le droit d'avoir des voitures. Donc, c'est pas évidemment pour ou contre l'automobile, c'est quelque chose de beaucoup plus astucieux, de beaucoup plus fin. Donc, c'est pas du tout une opposition technophile, technophobe. C'est en gros l'automobile individuelle, on peut s'en passer, ça coûte très cher. Si on met de l'argent là-dedans, dans les routes, etc., on mettra pas d'argent dans d'autres choses, en fait. C'est pour dire que déjà, parfois, on arrête le progrès et, en l'occurrence, c'était assez astucieux de l'avoir arrêté de manière un peu subtile, quoi, à ce moment-là.
En résumé, toute l'histoire du XXe siècle, c'est l'histoire de pensée critique du progrès. Alors là, comme ça, on dit progrès, on pense spontanément, tout de suite, on pense au mot innovation. Innovation, ça veut forcément dire progrès, Jean-Baptiste Frézos ?
Alors ça a une longue histoire, ce mot innovation. C'était plutôt connoté péjorativement au XVIe, XVIIe siècle et encore dans le XVIIIe siècle. Dans le dictionnaire, c'est plutôt, par exemple, une innovation juridique, c'est pas bien. Vous avez fait quelque chose qui n'est pas complètement dans la jurisprudence. Donc il y a plutôt une connotation négative. Je ne sais pas quand exactement c'est relié vraiment étroitement à la technologie. C'est pas encore au XIXe siècle, donc ça va être quelque part dans le XXe siècle, parce qu'au XIXe siècle, on ne parle pas tant que ça d'innovation. C'est vraiment, je pense, lié plutôt à Schumpeter, Joseph Schumpeter, qui a fait une grande théorie d'innovation, et puis toute une école ensuite de réflexion sur l'innovation schumpeterienne, néo-schumpeterienne. Mais ce qui est sûr, c'est que en sciences humaines, et c'est ça le vrai problème au fond, un peu intellectuel, c'est que quand on réfléchit sur les techniques, c'est toujours sur l'innovation. Et on confond les deux.
François Jarige, l'innovation n'a pas toujours été rattachée au monde technique ?
Non, mais ce que vient de dire Jean-Baptiste, c'est très juste. Un terme perçu plutôt négativement comme un danger, comme une menace qui risque de perturber le fonctionnement de la société, puis qui va être peu à peu doté d'une connotation, mais en fait très tardivement. Mais je pense que l'innovation, c'est l'un des termes de cet imaginaire ou de ce langage du progrès. Or, à chaque génération, le langage du progrès change son lexique pour adapter à la conjoncture, pour parce qu'il y a toute une série de termes qui sont un peu qui perdent de leur pertinence. Par exemple, au 19e, on parlait à la fin du 19e, on parlait beaucoup de machinisme.
Puis d'invention surtout, en fait. Le mot qu'on employait à l'époque, c'était invention.
C'est le mot invention, et puis on parle beaucoup de machinisme, y compris on parle de l'ère du machinisme qui se mettrait en place, etc. Donc, et puis, je crois que en fait, c'est très récent, le terme innovation. Le terme innovation, il est relancé dans les années 1980, après tous les débats, les interrogations, les controverses des années 70 sur les choix techniques, sur la société industrielle. On a la réinvention d'un monde technique un peu miraculeux autour de l'informatique qui doit introduire une société immatérielle. Et là, on va avoir une profusion croissante. Il faudrait faire le travail un peu de suivi précis des usages du mot innovation. Mais depuis les années 80, le mot n'a pas cessé de monter en puissance jusqu'à devenir une sorte de gimmick du langage politique actuel où le mot innovation est omniprésent. C'est-à-dire que dans la publicité, mais y compris dans l'université, dans les entreprises, c'est devenu une sorte de terme valise qui permet de dire qu'on est inscrit dans la dynamique du progrès. Mais là encore, c'est-à-dire que dans l'imaginaire du progrès, à chaque génération, il y a un certain nombre de termes qui s'imposent, qui montent en puissance, pour donner l'impression, finalement, on n'est plus dans la vieille société ancienne, mais qu'on a réinventé un nouvel univers intellectuel. Et l'innovation, je crois, il a cette fonction de réactiver l'imaginaire du progrès dans un contexte où plus personne n'y croyait dans les années 70, quoi.
Mais sinon, techniquement, ouais, je crois qu'innovation, ça vient de Schumpeter qui distingue l'invention, qui en gros un truc qu'on invente, puis l'innovation c'est la diffusion, c'est l'invention utile qui a économiquement un impact, donc c'est vraiment dans les années 30, un moment où on s'intéresse beaucoup d'ailleurs aux techniques, il y a des choses importantes qui sont écrites à ce moment-là. Mais ce qui est frappant, c'est que ce mot-là, bon, qui a eu un intérêt, c'est devenu en fait, le grand problème c'est que dans le monde académique, vous voyez, ceux qui s'occupent de techniques, c'était le centre de sociologie de l'innovation à l'École des Mines, ceux qui faisaient de l'histoire des techniques, c'était le centre d'histoire de l'innovation à la Sorbonne, etc. Donc vraiment, cette confusion entre innovation et technique est très dommageable. Intellectuellement, ça produit des catastrophes. C'est un historien anglais qui s'appelle David Edgerton qui a écrit un livre là-dessus qui est absolument génial, Quoi de neuf, The Shock of the Old, qui montre à quel point, que parce qu'on confond innovation et technique, on ne comprend rien en fait à la constitution matérielle de notre société.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
16h17 sur France Culture. Et si on arrêtait le progrès? C'est la question que nous posons à nos deux invités du jour, François Jarige et Jean-Baptiste Frézose. On vient de revenir sur les origines historiques de cette notion. Parlons à présent de la critique de l'innovation, la pensée technocritique. Jean-Baptiste Frézose, l'histoire déborde de procès de controverses autour des technologies.
Oui. Alors justement, la pensée technocritique, c'est d'abord une pratique technocritique. Je crois que c'est vraiment pas une affaire de penseurs au départ. C'est une affaire de gens qui sont concernés par des nouveaux produits technologiques, par des industries qui posent problème, par des inquiétudes sanitaires, etc. Donc plutôt qu'imaginer une histoire où on aurait quelques grands penseurs qui auraient pensé ces choses-là bien mieux et avant tout le monde, non, il faut voir qu'en fait, c'est un peu la ligne de base, si vous voulez, de l'histoire, quoi. C'est-à-dire, quelque chose de nouveau, on se pose des questions forcément, naturellement, et c'est normal, c'est plutôt sain, quoi. Donc voilà, c'est-à-dire, je ne sais pas si on peut vraiment définir clairement ce que c'est que des technocritiques, quoi. C'est simplement avoir une réflexion, j'ai envie de dire rationnel et raisonné sur des propositions techniques qui sont pas forcément mauvaises. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses évidemment excellentes qu'il faut garder des techniques. C'est juste qu'il faut être capable de faire un inventaire en fonction des problèmes qui se posent et des contextes économiques et matériels et environnementaux.
Jean-François Jarige, justement sur l'avènement de l'antimachinisme, de la pensée technocritique.
Oui, non, bien sûr. Mais bien sûr, la technocritique, si on veut appeler ça comme ça, elle est consubstantielle à tout nouveau dispositif qui est introduit et qui déplace les intérêts, qui crée des victimes, qui crée des bénéficiaires du changement. Et donc, il y a des débats et des discussions. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'au milieu du 19e siècle, je pense que c'était normal. Enfin, il y avait des discussions sur les procédés de production dans l'industrie, etc., qui étaient assez naturels. Et à partir du moment où s'est imposé une sorte de cadrage modernisateur, de confiance collective dans un avenir qui serait produit par la technique, il a été de plus en plus difficile de discuter collectivement aussi des choix techniques. Si on revient sur le mot technocritique, il faut juste préciser que c'est un terme qui a été inventé dans les années 70 par un ingénieur philosophe, justement, qui s'appelait Jean-Pierre Dupuis, qui était proche de Ivan Illich, qui a traduit, qui a coécrit certains ouvrages avec Illich, et qui avait en fait utilisé ce mot pour créer une collection aux éditions du Seuil qui s'appelait Technocritique, et qui, dans le contexte d'interrogations, de doutes sur un certain nombre de promesses technologiques de cette époque-là, a proposé justement de réouvrir la boîte noire des techniques, de les mettre en débat, de les discuter, en traduisant toute une série d'intellectuels qui pensaient cette question, comme Ivan Illich, qui pensait la contre-productivité d'un certain nombre d'innovations, etc. Donc c'est une construction d'intellectuels, effectivement, pour regrouper sous un terme unique un ensemble de pratiques omniprésente dans la société. Donc moi, je m'étais intéressé aux ouvriers qui brisaient des machines au début du 19e siècle. Je ne sais pas s'ils sont technocritiques, mais
le mouvement des ludites, c'est ça. C'est le...
Voilà, le fameux mouvement ludite qui a symbolisé et qui a été construit comme le symbole de ces refus populaires de la mécanisation, qui a été une manière aussi de dire que c'était le peuple, le barbare, obscur, stupide, qui critiquait les machines, parce que le discours économique, et ça, Jean-Baptiste a très raison, c'est important, c'est-à-dire à l'époque contemporaine, le discours économique construit une sorte de langage commun qui va jouer un rôle très important dans les médias comme dans le champ politique. Donc la théorisation économique par l'économie politique de cette question, elle est fondamentale. C'est les économistes qui ont, par exemple, expliqué que c'était grâce à l'innovation que les sociétés humaines pourraient se développer de façon hors sol, en ne prenant pas en compte les processus physiques qu'il peut y avoir derrière les circulations de matière, en disant que grâce à l'innovation, on arriverait toujours à trouver des solutions ou à résoudre les impasses. Donc le marché couplé à l'innovation technique permettait de créer une société un peu déconnectée du monde réel. Et ça, c'est devenu une sorte de doxa, de langage qu'on trouve massivement dans les discours publics et dans les discours des hommes politiques depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, et ça contribue justement à simplifier tous ces débats permanents et omniprésents quand on parle des transformations matérielles qui accompagnent le système industriel contemporain, quoi.
Oui, Jean-Baptiste Frézos, l'anti-progrès a souvent été disqualifié, moqué ou renvoyé à de l'obscurantisme.
Ça, c'est, disons, oui, une stratégie assez classique de psychologiser l'opposition en disant ils ont. Mais ce qui est frappant, c'est que, enfin, la technocritique, ça peut venir des ingénieurs, et c'est souvent les meilleurs technocritiques, c'est ceux qui connaissent. En fait, plus on connaît la technique, plus on connaît ses limites, plus on connaît son coût matériel. C'est vraiment pas du tout les ignorants versus les sachants. En l'occurrence, c'est les sachants qui sont technocritiques et qui ont des bons arguments souvent. Donc, moi, j'avais travaillé, par exemple, sur une controverse qui était assez fascinante sur le gaz d'éclairage dans les années 1820. Le gaz d'éclairage, on prend du charbon, on chauffe le charbon avec du charbon, on fait du gaz, ça fait la lumière. Le rendement est absolument désastreux et c'est des ingénieurs qui disent, mais vous savez quoi, une bougie c'est bien mieux en fait, c'est beaucoup plus efficace que le gaz d'éclairage. Donc vous voyez, c'est des chimistes qui font ces calculs, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut voir que la technocritique, c'est juste ça peut être une analyse économique. C'est pour ça que moi, je connais plein d'économistes dans l'histoire qui ont été en fait les meilleures analyses des techniques. Une fois encore sur le nucléaire, vous lisez les travaux des économétriciens de l'université de Chicago des années 50, mais c'est extraordinaire. En fait, pourquoi c'est pas si génial le nucléaire? Déjà, à cette époque, entre la moitié et les deux tiers du coût de l'électricité, c'est le réseau. Bah, vous remplacez le charbon par le nucléaire, déjà, vous remplacez que ce petit truc, quoi. Puis après, il y a des coûts de développement énormes, etc. Donc, voilà, des critiques qui étaient assez justes. Donc, voilà, je pense que les économistes peuvent avoir un rôle très important, en fait, justement, pour remettre un peu sur le terrain de l'économie les techniques. Parce que justement, les techniques, il y a un aspect, on va parler d'innovation, sauf qu'en fait, faut bien voir que l'innovation s'intègre dans un monde économique où il y a des coûts, où il y a des matières premières qui coûtent un certain prix, etc. Et ce qui peut paraître astucieux techniquement n'a aucun intérêt économique, ça arrive aussi souvent.
François Jarige.
Oui, bah bien sûr. De toute façon, ce qu'on appelle l'économie, c'est traversé de tensions. Il y a des orthodoxes, il y a des hétérodoxes. On en reparlera peut-être, mais la notion de décroissance a été inventée par un économiste schumpeterien hétérodoxe qui critiquait l'enseignement de l'économie dominant. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment se construisent aussi des imaginaires dominants qui ont des effets sur le réel. Et la théorie économique, malgré tout, a construit une sorte de modèle de l'innovation comme réponse à toute une série de problèmes qui étaient fondamentalement des problèmes justement très techniques ou des problèmes sociaux qui ne pouvaient pas se régler par des innovations miraculeuses. Mais je crois que l'économie politique depuis le 19e a quand même s'il y a plein d'économistes qui critiquent ça, et il faut distinguer le discours économique standard un peu simplifié que reprennent les hommes politiques dans leurs programmes et dans leurs discours, et évidemment la science économique qui est infiniment plus complexe. Mais donc voilà, ce qu'il faut penser, c'est qu'il y a il y a une dialectique, il y a des tensions en permanence autour de la caractérisation des objets techniques, de leur sens. Et ce qui compte, c'est qui donne le sens d'une technique. C'est-à-dire qui définit dans quelle mesure ça va être un progrès ou pas. Parce que le progrès, c'est toujours pareil. C'est pour qui, pour faire quoi, par rapport à quel objectif. C'est pour ça que c'est une catégorie floue, vide, qui reste trop indéterminée. Donc, en cela, d'une certaine manière, le progrès, c'est toujours une question d'arbitrage entre des fins, des objectifs qu'on se donne. C'est-à-dire que l'automobile est un progrès si l'objectif, si le progrès, c'est d'aller le plus vite d'un point A à un point B. L'automobile est moins un progrès s'il s'agit d'économiser les ressources fossiles et de limiter les pollutions. Donc, on voit bien qu'à chaque fois, c'est des enjeux politiques, c'est des choix de société aussi. Et donc, il y a des conflits entre des intérêts contradictoires. Il ne faut pas dissimuler que derrière la technique, il y a toujours des conflits entre des intérêts en contradiction. Certains intérêts dominent, l'emportent à certains moments, et d'autres sont marginalisés, et il y a des renversements aussi qui peuvent s'opérer.
Alors, par rapport à ces questions de contestation des nouvelles techniques, à partir de quand l'impact des technologies sur le monde vivant, à partir de quand ça commence à être critiqué, ça, François Jarige?
Vous voulez dire l'impact des technologies sur le monde vivant?
Depuis tout le temps, en fait, parce que, il y a des controverses sur la pêche au Moyen-Âge, quoi. C'est-à-dire, en fonction des engins de pêche, vous allez attraper les petits poissons, donc les poissons ne pourront pas grandir et ça sera la fin de la ressource. Sur les fleuves, ça existe depuis le Moyen-Âge et peut-être avant, j'en sais rien. Donc, la question posée comme ça, elle est assez facile à répondre, quoi. Il n'y a pas de nouveauté là-dessus, quoi.
C'est ça, mais les machines à vapeur, c'est polluant. Les machines à vapeur,
quand ça explose, ça peut raser un quartier entier. Donc, c'est sûr que c'était un vrai risque technologique qui était d'ailleurs, ça a été difficile de le faire accepter. Moi, j'ai vraiment travaillé là-dessus. Et en 1823, le ministre de l'Intérieur français interdit les machines à vapeur en ville. Vous vous rendez compte? La machine à vapeur, l'outil central de l'industrialisation, soi-disant, interdit en ville. Bon, heureusement, les ingénieurs passent derrière, ils lui expliquent que non, mais là, en fait, on peut régler le problème, on va pouvoir mettre des normes de sécurité, etc. Donc, ça veut dire qu'il y avait encore une certaine incertitude sur la possibilité même d'accepter une industrialisation en ville en 1823, par exemple.
François Jarige?
Oui, Jean-Baptiste a bien travaillé sur ces controverses autour de la vapeur. Enfin, les historiens des pollutions industrielles ont montré à quel point il y avait des conflits partout autour des nouveaux produits de l'industrie, autour de ces nouvelles techniques assez dangereuses, pour plein de raisons. Les riverains se plaignaient de la déperdition de valeur de leurs biens, se plaignaient des fumées, l'installation des machines à vapeur s'est accompagnée de tensions, de rivalités micro à l'échelle locale un peu partout. Moi, ce qui me paraît aussi intéressant, c'est plutôt que de dire il y a toujours eu une critique, ce qui me semble intéressant aussi, c'est quand même de montrer ou de repérer qu'il y a des moments. Il y a des moments où la critique est possible et d'autres où la critique devient plus difficile et indéniable, même si elle subsiste en permanence. Mais c'est son poids dans la société. Par exemple, ce que j'appelle des moments technocritiques, c'est la fin du 19e siècle, par exemple, qui est un moment marqué par une grave crise économique et par un changement rapide. Un changement de système technique avec l'arrivée de l'automobile, le développement de la chimie industrielle, l'arrivée de nouveaux produits comme l'aluminium, etc., est un moment où on se pose plein de questions. Il y a une légitimité d'interroger ces trajectoires. De même, les années 30, dans le contexte de la grande crise du capitalisme. De même, les années 1970, où on s'interroge sur les impacts sociaux, environnementaux. Il faut rappeler qu'en 1973, vous avez déjà des manifestations de jeunes devant des salons de l'automobile aux États-Unis pour critiquer la civilisation de l'automobile. Et donc, il y a des moments quand même technocritiques où il y a une sorte, le contexte intellectuel, politique, social, fait que les promesses un peu débridées des promesses technologiques sont un peu en retrait, et donc il devient possible d'interroger les choix techniques. Et en même temps, il y a des moments aussi où c'est plus difficile. Par exemple, la période des années 50 aux années 70, bien sûr, il y a plein de gens qui critiquent les techniques, mais dans l'espace public, il y a quand même une sorte de consensus modernisateur qui fait confiance au progrès. De même, les années 80-90, après la critique des années 70, a été un moment de relance de toute une série de promesses, notamment autour du nouveau système technique informatique puis numérique, qui devait résoudre les problèmes de l'ancien monde industriel polluant en créant un système technique décentralisé, immatériel, sans pollution. Et depuis le début du XXIe siècle, on est re-rentré dans un moment ambivalent ou technocritique, si on veut. Je pense que le moment de la controverse sur les OGM au début du XXIe siècle a été un moment important parce qu'il y a eu une mobilisation collective, il y a eu une désobéissance civile contre une trajectoire technique qui était présentée comme susceptible de résoudre la fin dans le monde avec le développement des OGM. Et il y a eu une politisation, en fait. Je pense que c'est plutôt, il y a des moments où il y a des politisations, des mises en débat des choix techniques, et il y a des moments où la promesse modernisatrice l'emporte davantage.
Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux, et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça.
Ah, Boris Vian, la complainte du progrès à 16h30 sur France Culture. On se demande s'il ne faudrait pas l'arrêter, le progrès. Une question que l'on pose à nos deux invités du jour. François Jarige, historien des sociétés industrielles, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne. Et avec Jean-Baptiste Frézoz, historien des sciences, des techniques et de l'environnement. On vient de voir l'origine de la notion de progrès, l'émergence de la pensée technocritique. Dans cette histoire de nos choix techniques, on voit aussi apparaître un autre terme, le technosolutionnisme. Jean-Baptiste Frézoz, est-ce qu'on peut rappeler le sens de ce terme? C'est quoi le technosolutionnisme?
Alors en fait, c'est une expression qui est inventée par un monsieur qui s'appelle Avin Weinberg. C'est un physicien atomiste américain très important, qui était persuadé effectivement que c'était très compliqué de faire de la politique. Au fond, les politiciens, et ça marche pas très bien, on a du mal à résoudre des problèmes. Et par contre, la technique est beaucoup plus efficace pour résoudre les problèmes sociaux. Je vous donne un exemple. Il avait étudié statistiquement le fait qu'il y avait plus d'émeutes raciales aux États-Unis quand il faisait chaud. Et donc, il dit, ben, il y a une solution assez simple. Ce qu'il faut, c'est favoriser le développement de la climatisation. Vous voyez, c'est ce genre de raisonnement assez simpliste sur une solution technique à un problème qui est pas fondamentalement technique quand même.
À chaque problème, une solution.
Exactement. Technique. Voilà. Donc, ça vient vraiment de ce monsieur-là qui invente ce mot technofixe. Après, comment dire, on peut ridiculiser la chose. Alvin Weinberg dit des choses plus intéressantes. Je pense quand même que faut bien voir que là, on parlait de, et on sera heureux, comme disait Boris Vian. Les économistes étudient ça, les économistes du développement étudient ça, et c'est vrai qu'il y a des niveaux de développement qui augmentent la satisfaction et le sentiment de bien-être. Et le truc, c'est qu'en fait, on l'a largement dépassé. C'est des PNB par habitant autour de 20 000 dollars par an par habitant. On est très loin de ça. En France, on est à pas loin de 40 000. Donc, on est largement au-delà, si vous voulez, des économies qui, normalement, devraient permettre d'avoir... Et après ça stagne, quoi. On n'est plus du tout dans un phénomène où ça croît encore. Quelque chose qui rend massivement les gens beaucoup plus heureux, c'est l'eau courante. L'eau courante, ça change tout, parce que quand vous devez aller faire un kilomètre ou deux à pied pour aller chercher de l'eau qu'on puisse boire, ça change quelque chose à votre vie. Avoir à chercher pendant du bois de feu pendant 3 ou 4 heures, c'est souvent les femmes qui font ça dans les pays d'Afrique subsaharienne, ça réduit considérablement quand même la qualité de vie. Donc je crois qu'en fait, une fois encore, il faut avoir c'est des choses qui s'étudient, qui se calculent. C'est juste qu'en fait, les gens qui nous balancent l'innovation comme solution à tout ne savent pas ça, en fait, ne connaissent pas ce genre de travaux scientifiques.
François Jarige, sur cette idée et sur cette notion de technosolutionnisme.
Oui, Jean-Baptiste l'a dit, hein, ça a été aussi propulsé dans l'espace public plus récemment par un chercheur américain qui s'appelait, je crois pas qu'il soit d'origine américaine, mais qui est aux États-Unis, qui s'appelait Evgeny Morozov, qui avait écrit un bouquin traduit en français sous ce titre de technosolutionnisme et qui a un peu entraîné, qui a fait circuler ce terme dans le langage et dans le débat français. Et c'est cette idée que la technique permet de potentiellement de résoudre tous les problèmes, ce qui évite d'avoir à poser des problèmes d'organisation sociale plus structurelle, quoi. Globalement, c'est l'idée d'un solutionnisme. C'est-à-dire que face à des problèmes complexes, multifactoriels, imaginer une solution technique permet d'éviter ou de laisser de côté des questions ou des projets qui seraient peut-être plus compliqués à faire accepter. Hein, donc, dans un système politique un peu court-termiste, évidemment, la solution technique apparaît comme presque miraculeuse pour les hommes politiques. Et on le voit bien, hein, face à des problèmes gigantesques, qu'ils soient sociaux, éducatifs, environnementaux, dans les discours politiques, on voit souvent poindre une sorte de solution technique qui doit fermer le débat, quoi. Que ça soit l'hydrogène, une nouvelle génération de centrales nucléaires, guerre, ça permet à des acteurs politiques de montrer qu'ils agissent. Et je crois qu'il y a un mécanisme économique derrière ça. C'est-à-dire que le technosolutionnisme, il est lié à une économie de la promesse. Et l'économie de la promesse, elle fonctionne aussi dans le cadre d'un système économique. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des hommes politiques qui cherchent des solutions et vous avez de l'autre côté des acteurs économiques, des industriels qui proposent des solutions. Et donc, chacun de ces acteurs exagère les avantages de leur gadget ou de leur proposition pour construire des marchés, pour créer du désir, pour obtenir le soutien de l'État, pour obtenir le soutien des acheteurs, des consommateurs. Et donc, on est en permanence dans une sorte de course à l'échalote à la promesse technologique qui est un peu déconnectée, comme le disait Jean-Baptiste, de la réalité des processus techniques, environnementaux et sociaux. C'est-à-dire que, globalement, évidemment, le développement, c'est une question complexe, mais évidemment, accéder à la nourriture de base, accéder à l'eau courante, accéder à un minimum d'éléments de confort matériel, c'est la condition de possibilité d'une vie bonne. Mais évidemment, c'est l'accès à ces biens de base, il peut être réalisé de multiples façons. Il peut être obtenu de façon très simple. Et parfois, les solutions techniques les plus simples ne sont pas celles qui sont les plus privilégiées ou les plus mises en avant parce qu'elles rapportent moins de profit à ceux qui les fabriquent. Et donc, parfois, des solutions techniques qui sont des gabegies, mais qui permettent davantage de profit pour leurs producteurs, s'imposent sur des solutions qui seraient plus rationnelles d'une certaine manière, mais qui sont laissées de côté. Et ça, d'une certaine manière, l'histoire est remplie de ce type de ce type d'exemples.
Jean-Baptiste Frézeau, pour reprendre ce que vous dites, François Jarry, c'est que le technosolutionnisme s'est souvent présenté comme un levier d'action politique. Aujourd'hui, Jean-Baptiste Frézeau, dans l'actuelle crise climatique, quels sont les visages du technosolutionnisme ? Quelles sont, selon vous, les fausses promesses du solutionnisme technologique ?
Je pense que l'emblème actuellement, c'est clairement la voiture électrique. C'est-à-dire, c'est là aussi où on voit que... La technocritique n'est pas focalisée sur l'innovation. C'est-à-dire, par exemple, je pense que, effectivement, l'énergie éolienne est infiniment supérieure à l'énergie du charbon ou du gaz. Donc, c'est pas une question de... D'ailleurs, en quelque sorte, l'éolien n'est pas nouveau. C'est un peu un retour à une vieille technologie d'une certaine
manière. Ou l'invent, oui.
Voilà. Non, mais bon, le panneau solaire est assez nouveau quand même. Et c'est vrai que c'est nettement supérieur au gaz ou au charbon. L'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on va faire toute cette électricité? C'est ça le sujet. Et donc, effectivement, si on veut, avec cette électricité, faire tourner 1,7 milliard de voitures comme il y en a actuellement sur la Terre, c'est vrai que c'est pas une solution. Voilà, c'est juste que c'est pas du tout possible en fait, avec les limites climatiques qu'on se fixe. C'est-à-dire pourquoi ? Parce que une voiture en fait, en première approximation, c'est 70% d'acier. Cet acier, on ne sait pas le faire sans charbon. Ces voitures, elles ont besoin de routes pour rouler. Alors les routes, malheureusement, c'est un des plus gros consommateurs de ciment, les infrastructures routières, de liant hydraulique et de ciment. Le ciment, pareil, on ne sait pas le décarboner. Donc quand on vous dit, voilà, la voiture électrique, c'est une voiture zéro carbone, on vous dit quand même un énorme mensonge, quoi. C'est ça qui m'embête, moi. C'est-à-dire, la voiture électrique, en ce moment, est promue comme une solution au dérèglement climatique, alors que c'est en fait une demi-solution. Donc c'est une non-solution, en vérité. Faut bien en avoir conscience. Donc plutôt que se poser la question, je dis pas que c'est simple, c'est-à-dire une fois encore, maintenant qu'on a une urbanisation galopante, des villes très étendues, c'est très compliqué de revenir en arrière. Sachant que les logements, c'est la moitié du capital. Dans chaque pays, à peu près, c'est entre 50 et 60% du capital. Donc, il y a une bonne partie du capital qui dépend, en fait, de l'automobile individuelle. La question, c'est, alors, si on veut être un peu plus subtil, c'est bon, alors, ok, la voiture électrique de 2 tonnes, c'est pas possible. Donc, on va faire des petits véhicules électriques. Donc, il faudrait commencer à discuter de ça sérieusement. Le problème, c'est qu'en ce moment, le gouvernement choisit d'investir énormément d'argent public pour subventionner les bourgeois, enfin la bourgeoisie française, pour qu'ils achètent des gros véhicules électriques. Parce qu'effectivement, Renault et Stellantis font leur marche sur leurs gros véhicules électriques, plutôt que de dire, bon, on va repenser ce que c'est que l'automobile, on va faire des tout petits véhicules électriques très légers pour des petites distances, et puis pour le reste, pour le transport de charges lourdes, on va peut-être garder d'ailleurs des camions à essence, j'en sais rien. Mais plutôt que réfléchir sérieusement à ces questions, sérieusement, ça veut dire en termes matériels et climatiques, en termes de tonnes de CO2, en termes de cycle de vie. Toutes les données sont là. C'est pas des choses extravagantes que je raconte. Tout est parfaitement posé sur la table. En fait, on est sur des caricatures du genre, oui, les Amish ou je ne sais quoi, le retour à la lampe à huile. Alors que vraiment, c'est des questions qu'on devrait poser, quoi. Et puis en plus, sans tabou. C'est-à-dire, je comprends tout à fait que c'est compliqué de supprimer entièrement l'automobile individuelle. Faut le reconnaître. Mais il y a quand même plein d'autres solutions assez astucieuses.
François Jarry, vous, par rapport justement à ce technosolutionnisme, vous travaillez aussi à déconstruire un autre mythe qui est celui, le mythe de la substitution.
C'est plutôt... Oui, c'est surtout Jean-Baptiste qui s'intéresse.
Tous les deux, vous planchez sur ces questions-là, oui.
Moi aussi, je m'intéresse à ça de près. Mais l'exemple de la voiture que Jean-Baptiste prenait est sans doute le meilleur exemple actuel dans l'actualité, puisqu'on est face à une promesse de substitution. Donc, vous aviez des voitures thermiques qui polluaient, etc. Donc, bon, pour résoudre le problème, pour réduire les émissions de CO2, on va transformer le parc automobile en 20 ans en électrique. Et on imagine qu'on va régler le problème, qu'on va résoudre le problème. Et c'est quand même sidérant de voir que ces discours, ils puissent être tenus aussi explicitement dans les médias, dans les discours des industriels du secteur et repris par les acteurs politiques. Parce qu'effectivement, ça ne tient pas et les ingénieurs le disent. C'est-à-dire que, et la question, elle n'est pas d'être pour ou contre l'automobile. Parce que c'est évident qu'on aura besoin d'automobiles encore dans le futur. Mais vous savez, dans les années 70, déjà, les constructeurs automobiles promettaient la substitution des voitures polluantes à voitures propres. Et au début des années 2000, les constructeurs dans les années 70 promettaient qu'au début des années 2000, on aurait des voitures qui consomment quasiment plus, qui n'émettent plus de pollution grâce aux pots, grâce aux techniques de dépollution qui inventeront la voiture propre. Donc on est 20 ans après et la voiture propre, elle est toujours pas là. Et là, la nouvelle voiture propre, c'est la voiture électrique. Et la voiture électrique, le problème, c'est qu'en fait, on voit bien qu'il s'agit surtout de soutenir des constructeurs dans une compétition internationale où il y a le nouveau marché qui va devenir dominant, c'est le marché de la voiture électrique. Donc on construit, on investit des milliards pour substituer à la voiture thermique la voiture électrique en pensant résoudre le problème alors qu'on va juste le déplacer, créer une multitude d'autres problèmes. Et en fait, la question qu'il faudrait se poser, il y a des gens qui réfléchissent, mais il y a très peu d'écho dans l'espace public de ces questions, c'est de qu'est-ce que c'est une voiture? De quoi parle-t-on? À quoi ça sert? Indéniablement, il y a plein d'acteurs qui auront encore besoin de voitures pour déplacer des choses, mais dans les villes, par exemple, la voiture individuelle dans les villes est quand même une aberration quand il y a des réseaux de transport public denses. On a diminué de la moitié le réseau ferroviaire depuis les années 50 en France, rendant de plus en plus les gens dépendants à l'automobile dans les zones rurales aussi. Et qu'est-ce que c'est une voiture? On peut très bien imaginer des voitures qui sont bridées, qui vont pas vite, qui sont assez légères. Et d'ailleurs, c'est ça qu'il faudrait pour développer l'électrique, parce que les grosses voitures de 2 tonnes à électrique, ça va être une aberration sur le plan énergétique, sur le plan des déchets, parce que les batteries, c'est extrêmement problématique et polluant. Donc la voiture, c'est un bon exemple. On pourrait prendre l'exemple du train aussi. Quand on dit du train, le progrès dans le train, c'est le TGV, c'est-à-dire un système technique qui doit aller le plus vite possible. Mais en fait, on pourrait considérer que depuis 50 ans, on a eu une régression en matière ferroviaire, avec la disparition de la plupart des petites lignes. Donc il pourrait très bien y avoir un train qui va beaucoup moins vite, parce que passé une certaine vitesse, les consommations énergétiques du train explosent. Donc c'est une question en fait d'usage, c'est ce que j'évoquais Jean-Baptiste tout à l'heure en parlant de David Edgerton. La question de l'histoire des techniques, c'est moins une question globalement d'innovation, de rupture révolutionnaire, que d'usage concret, situé, répondant à des besoins.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
16h42 sur France Culture avec François Jarige et Jean-Baptiste Frézose. Nous parlons de la notion de progrès, celle de l'innovation ou comment les questions écologiques ont complètement redéfini ce qu'on appelle le progrès. Alors depuis quelques années, un collectif baptisé Scientifique en Rébellion mène des actions de diverses natures pour sensibiliser notamment à la crise environnementale. Pour le reportage du jour, nous nous sommes rendus à la rencontre de l'un de ces scientifiques en rébellion et c'est avec vous Antoine Beauchamp, bonjour.
Bonjour Natacha, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, j'ai rencontré Audin Marc, qui est chercheur CNRS en géophysique et géomorphologie à Toulouse. Il nous explique pourquoi il a décidé de rejoindre il y a peu le collectif Scientifique en Rébellion, un collectif français créé il y a environ 2 ans à l'appel de scientifiques venus de toutes les disciplines pour alerter le grand public sur l'urgence climatique. Il nous explique les raisons qui l'ont conduit à s'engager et il nous raconte comment certains scientifiques s'interrogent aujourd'hui sur une certaine injonction à la rentabilité et à la productivité en matière de recherche.
Ça fait presque 50 ans qu'il y a des rapports scientifiques, institutionnels qui alertent sur le fait que la croissance économique et le mode de vie actuel ne sont pas soutenables, ils vont amener à des désastres climatiques et donc des drames humains. Là, on voit les premiers désastres écologiques, au Pakistan par exemple, mais aussi les incendies en Australie, en Californie, les ouragans aux États-Unis, la sécheresse en France. Et on voit tout ça, et pourtant on reste sur la même trajectoire. Il y a une déferlante de greenwashing de la part des industriels, des politiques qui cherchent à retarder l'action ou à faire des petits pas. Et donc, en tant que scientifique, on voit bien que l'activité institutionnelle n'est pas suffisante. Et en tant que citoyen, on ressent l'urgence de s'engager. Et on a besoin de le faire en passant à l'action. Puis aussi, si on veut appeler les gens à se mobiliser pour des changements radicaux, on ne peut pas vraiment le faire de manière convaincante en restant derrière son bureau et en laissant les autres prendre des risques.
Comment est-ce que cet engagement-là se traduit dans votre quotidien de recherche ?
Évidemment, bon, il y a tout ce qui est le volet action qui sort un peu de la vie du chercheur, on va dire. Mais il y a aussi tous les aspects de changement dans les pratiques. Évidemment, vu qu'on est en lien avec l'urgence écologique, on essaie de se mettre en cohérence. Donc changer ses terrains ou sa manière de voyager pour aller à des conférences, pour le faire en train plutôt qu'en avion. Et aussi réfléchir aux sujets de recherche. Personnellement, moi, je me réoriente vers des sujets qui ne sont pas seulement orientés sur la physique des processus de glissement de terrain, par exemple, ou de catastrophes naturelles, mais aussi sur leurs impacts sociaux. Donc, en travaillant avec des sociologues, avec des collègues de sciences humaines. Et puis, il y a tout un aspect qui est très important aussi, qui est de plus s'impliquer avec la vulgarisation, les conférences, débats pour le grand public sur les questions écologiques et d'écologie politique. Donc ça, c'est ce qu'on fait beaucoup avec la Técopole, par exemple, participer à la rédaction de tribunes, à sensibiliser les collègues, à quantifier, trouver des nouvelles méthodes aussi. C'est aussi de la recherche, trouver des nouvelles méthodes pour évaluer l'empreinte carbone de la recherche, par exemple, et sensibiliser les collègues. Quel type de recherche on veut faire? Comment les thèmes de recherche vont être choisis? Est-ce qu'il peut avoir une plus grande part de démocratie là-dedans? Voilà.
Vous êtes chercheur en géologie en 2022, au 19e siècle. Vos missions n'auraient sans doute pas été les mêmes. Vous auriez peut-être été encouragé par les pouvoirs publics, économiques, à aller chercher des minerais, à aller trouver des ressources. Finalement, est-ce que vous, en tant que chercheur en géologie, vous remettez en question ce rapport au progrès, ce rapport à l'innovation, ce rapport à la croissance ?
La croissance ou une forme de décroissance de notre consommation de production, elle est impliquée dans les derniers rapports du GIEC et on voit bien qu'on va devoir aller vers une société plus sobre. Mais en fait, une science en décroissance, disons, c'est pas forcément quelque chose de négatif. On a par exemple eu... avec l'époque moderne, peut-être qu'on a moins de contrôle sur quelles recherches on fait. Par contre, on a beaucoup de pression d'un point de vue financier, par exemple, ou d'une incitation à la production. Donc, ce qu'on appelle un peu la fast science, une science très rapide qui est centrée sur des indicateurs bibliométriques où l'on doit produire plus. Et ces aspects quantitatifs, ils font qu'en fait, il y a un peu une perte d'importance de comment on choisit nos recherches, pourquoi, lesquelles vont être financées ou pas. Et donc, une science en décroissance, ça peut être aussi une science qui prend plus de temps pour diffuser les connaissances, pas seulement produire des connaissances, prend plus de temps pour participer au débat démocratique citoyen, qui est plus interdisciplinaire, qui travaille plus avec des collègues de sciences humaines et sociales, donc avec plus d'aspects réflexifs. Et ça, en fait, c'est des aspects qui peuvent résoudre justement la souffrance de beaucoup de collègues là qui sont confrontés à cette fast science, à cette injonction là, publier ou périr. Donc ça peut redonner du sens et aussi plus de sérénité dans son travail. Donc clairement... En plus d'être un impératif écologique, repenser peut-être le rapport à la science pour avoir plutôt des progrès sociétaux que des progrès technologiques, c'est quelque chose, oui, qui m'anime moi et qui pourrait, je pense, se développer beaucoup plus là, dans la communauté des scientifiques.
Dans ce collectif scientifique en rébellion, donc je disais vous êtes géologue, est-ce qu'il y a aussi des chercheurs qui sont directement encouragés à fabriquer de l'innovation, entre guillemets, l'innovation étant un petit peu le corollaire du progrès du 19e siècle. Je pense par exemple à des chercheurs dans les nouvelles technologies, dans le numérique, des chercheurs par exemple en chimie pharmaceutique par exemple. Est-ce que vous avez des interactions intéressantes avec ces personnes-là et qu'est-ce qu'elles peuvent dire, elles, de cette injonction à l'innovation ?
Alors oui, dans ces collectifs auxquels je participe, il y a des gens qui sont en physique, en ingénierie, en nouvelles technologies, en numérique. Certains ont fait en fait un choix assez radical de complètement changer de discipline, d'une certaine manière on peut dire de déserter, ou alors de se réorienter complètement de questions sur les nanoparticules, à peut-être comment développer des aspects vers les low-tech par exemple. Parce que c'est aussi des domaines de recherche qui sont plutôt justement sous-financés et sous-évalués, qui seraient une façon non pas de chercher quelque chose du plus technologique ou d'un développement technologique, mais peut-être réorganiser certaines technologies, réorienter leur façon d'être utilisée ou trouver des manières de les produire de manière avec une plus faible empreinte environnementale. Donc il y a ce type d'option. Après, on a aussi beaucoup de collègues qui veulent agir, qui veulent participer, mais qui sont en dissonance effectivement parce qu'ils n'ont pas encore franchi ce pas de déserter ou de réorienter leurs recherches. Et c'est sûr que c'est un problème difficile. Selon son statut, il peut y avoir des passerelles pour se réaffilié à d'autres sections du CNRS ou voilà, on a quand même une grande liberté en tant qu'académique en France, beaucoup plus que dans d'autres pays parfois où les sécurités par rapport au financement ou au financement de base sont encore plus faibles, donc il faut toujours se battre pour juste avoir son salaire en fait. Mais être dans une démarche réflexive, interroger ses collègues, développer peut-être d'autres aspects de recherche et éventuellement réorienter au moins en partie ses recherches, c'est possible. Et puis, comme peut-être pour la sobriété individuelle, qui est un peu le versant pour les citoyens qui sont non-chercheurs, qui peuvent chercher à faire des efforts personnellement, j'aime bien rappeler que c'est important d'en faire et ça donne une crédibilité, une cohérence, ça réduit la dissonance. Mais il ne faut pas que penser à ces efforts qu'on peut faire individuellement, mais aussi aux efforts qu'on peut faire collectivement. Et donc, un scientifique qui est chercheur en informatique et qui n'a pas encore trouvé comment réorienter ses recherches, il peut déjà prendre du temps pour diffuser des informations sur la crise écologique, sur l'engagement, sur des débats éthiques. Et ça, en fait, ça peut avoir une très grande portée collective, même si lui, tout de suite, maintenant, il n'est pas encore en train d'avoir trouvé le nouveau mode de recherche qu'il peut faire.
Merci Antoine Beauchamp pour ce reportage. François Jarry, hein, pour vous faire réagir à ce qu'on vient d'entendre. On vient d'entendre l'évocation des low-tech. Est-ce que le futur de l'innovation, ce serait d'innover mieux avec moins ?
Bien sûr, ça serait de faire en sorte que le développement technique soit moins pris en charge par le marché, par des acteurs qui cherchent que le profit et qui prennent davantage en compte les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux. Ce qu'on vient d'entendre est très intéressant. Il y a quand même un mouvement qui n'est pas totalement nouveau non plus. Dans les années 70, il y a eu un mouvement de chercheurs, de scientifiques critiques, dont le mathématicien Grothendieck est l'une des incarnations, qui ont déserté la recherche dans le contexte de la guerre du Vietnam, de la prise de conscience des liens entre le champ scientifique et l'appareil militaro-industriel. Il y a eu tout un débat autour de ça dès les années 70. Et on voit ce débat renaît massivement aujourd'hui parce qu'effectivement, la dissonance cognitive, elle est maximale entre les alertes environnementales et la réalité des pratiques scientifiques. Et ce qu'il faut bien voir, c'est comment est fabriquée la science aujourd'hui. Moi, dans les universités, le terme de start-up, qu'est-ce que c'est une start-up ? C'est une entreprise innovante, c'est une expression qui veut rien dire, mais qui est très à la mode. Il faut que les chercheurs fassent des start-up pour trouver des débouchés, pour trouver des financements. Donc, c'est la question du financement qui pousse de plus en plus à chercher et à développer des procédés qui répondent à la logique du profit avant de répondre au bien commun ou au besoin de trouver des réponses à nos impasses socio-environnementales, quoi. De toute façon, dans tous les cas, la recherche, les low-tech ne seront que des outils d'accompagnement d'une décroissance de nos empreintes matérielles, de nos consommations énergétiques, de nos consommations de façon plus générale. Et évidemment, pour décroître, on aura besoin d'ingénieurs, de mécaniciens, de scientifiques, parce que pour décroître, il faudra aussi réorganiser nos milieux de vie, réorganiser nos systèmes techniques.
Jean-Baptiste Frézeau.
Non, je crois que le truc aussi important dans ce que disait le chercheur, en gros, en France, on a le salaire de base qui est assuré effectivement par de l'argent public, mais en science dure, quand on veut faire une manip, on a besoin d'argent. Pour embaucher aussi quelqu'un qui va faire la manip pendant un an, pendant que vous faites les cours, il y a besoin d'argent. Et en fait, ce qui est très bizarre, c'est que l'État finance 90%, donc à savoir le salaire de base, mais les 10%, on va laisser ça à des PME, à des entreprises qui vont en fait piloter des recherches en externalisant finalement leur coût de R&D sur de la recherche publique. Et ça, c'est une vraie souffrance. J'ai pas mal de collègues qui sont chimistes, physiciens ou autres, qui se retrouvent en fait à faire de la R&D de choses qui, c'est pas pour ça qu'ils étaient partis pour faire de la recherche, c'est pas ça qui les motive au départ. Donc il y a une vraie souffrance des chercheurs en France à cause de cette injonction, il faut être pertinent économiquement, et ça veut dire aller démarcher l'entreprise locale qui a besoin peut-être de... Et ces gens-là, ils disent, moi j'aurais mieux fait d'être ingénieur, je gagnerais deux fois plus d'argent, et je ferais la même chose en fait.
On arrive vraiment à la toute fin de cette émission, je voudrais juste le petit mot de la fin, hein, François Jarry, le futur du progrès se doit-il d'être décroissant?
Oui.
Ça pourrait, on pourrait passer une heure sur cette question.
Oui, si on ouvre la boîte noire du terme décroissance, c'est là que les débats et les discussions commencent à surgir, parce qu'évidemment, c'est une catégorie. Déjà, il faut accepter que c'est une évidence contemporaine, et pour commencer à réfléchir à ce que ça implique en termes de choix politiques, parce qu'il y a plusieurs manières, sans doute, d'accompagner et de mettre en place cette décroissance, des manières autoritaires, des manières plus démocratique, il y a plein de façons. Et c'est là que le débat démocratique commencera, quand on aura au moins accepté le constat de base qu'il faut organiser des décroissances, des formes de décroissance de nos consommations dans tous les domaines.
Un mot, vous avez 30 secondes.
Dernier rapport du GIEC, ils ont 3200 scénarios simulés numériquement. Il n'y a pas un seul qui intègre la décroissance. Donc ça, c'est un appel aux économistes. Il serait temps que vous réfléchissiez sérieusement à ce que c'est que la décroissance, pour qu'on ne soit pas effectivement dans des injonctions très floues, mais qu'on regarde la décroissance de quel secteur, qu'est-ce que ça fait sur l'économie, qu'est-ce que ça fait si on réduit le parc automobile, si on arrête de produire autant de ciment, autant d'acier, parce que c'est évidemment pas tout faire décroître, faut faire décroître certaines choses, d'autres choses doivent croître, et ça, je veux dire, il faut vraiment le faire sérieusement, ça peut pas être simplement une injonction vague, il faut que les économistes s'y mettent vraiment.
Oui, il y a un consensus sur le fait qu'il n'y a pas d'autre solution, il faut décroître nos consommations matérielles. Merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Je rappelle François Jarry, que votre passionnant essai « On arrête parfois le progrès, histoire et décroissance » vient de paraître aux éditions L'Échappée. Il est temps de retrouver notre chronique quotidienne « Le pourquoi du comment », une chronique signée Étienne Klein.
La technologie nous éloigne-t-elle de la science ? La connaissance scientifique a ceci de républicain qu'elle est affaire publique. La République, à défaut d'être elle-même savante, accorde aux connaissances une valeur propre, une valeur spécifique, une valeur qu'elle possède du seul fait qu'elles sont des connaissances. À ce titre, toute connaissance doit pouvoir être connue de tous, du moins en principe. Ni le théorème de Pythagore, ni le second principe de la thermodynamique, ni la formule E égale MC2, ni le boson de Higgs n'appartiennent à quelqu'un en particulier. L'idée de république et la notion de connaissance sont donc comme intriquées, l'une et l'autre tangentant le même idéal d'universalité. Leur lien se trouve de surcroît renforcé par ce que Henri Bergson appelait la politesse de l'esprit, cette sorte de souplesse intellectuelle qui rapproche les humains et leur permet de s'épanouir en un monde commun. Mais il y a un problème. La science n'est pas si facile à partager. De multiples causes, certainement toutes fondées, sont régulièrement avancées pour expliquer cette difficulté. J'en ajouterai une. Aujourd'hui, à force de fabriquer de la fugacité, à force de promouvoir la vétille comme épopée du genre humain, les formes modernes de la communication se transforment souvent en une vaste polyphonie de l'insignifiance. Dès lors, tout travail de discernement, de clarification, de transmission de ce qui est complexe, relève quasiment de l'héroïsme. Aucune pensée n'est immunisée contre les risques de la communication, disait déjà Théodore Adorno. De surcroît, lorsqu'il s'agit d'expliquer la science, nous ne sommes guère aidés par le fait que l'un des espoirs des philosophes des Lumières a été cruellement déçu. Si, au moment de concevoir leur encyclopédie, Diderot et d'Alembert ont choisi d'y insérer de très nombreuses planches et illustrations expliquant en détail le fonctionnement d'une multitude d'objets techniques, c'est en vertu d'un principe qui leur semblait aller de soi. Les objets techniques, en devenant visibles, familiers, seraient implicitement vecteurs de connaissances scientifiques. Plus nous nous frotterons à eux dans la vie quotidienne, pensait-il, mieux nous connaîtrons et comprendrons les principes scientifiques qui les ont rendus possibles. Certes, il y eut sans doute une époque où les personnes cultivées pouvaient comprendre tous les outils et toutes les machines qui les entouraient, mais les encyclopédistes n'avaient pas anticipé une autre réalité qui, au fil du temps, allait peu à peu s'imposer. Plus un objet technologique est complexe, plus son usage tend à se simplifier. Ainsi, presque aucun d'entre nous ne saurait dire comment fonctionne un ordinateur ou un téléphone portable, ce qui ne nous empêche nullement de nous en servir sans avoir besoin de consulter la moindre notice. Ainsi, certains objets techniques, à la fois familiers et extraordinairement complexes, en viennent-ils à masquer ou à marginaliser les connaissances scientifiques dont ils sont pourtant les conséquences ? Ces connaissances sont alors perçues comme pratiquement inutiles, inutiles en pratique, donc inutiles tout court. Plusieurs classements internationaux montrent qu'il y a un décrochage de notre pays dans la maîtrise des connaissances mathématiques et scientifiques, notamment dans la population jeune. En 2021, un test a été réalisé auprès des élèves entrant en sixième. Il leur était demandé de placer la fraction 1/2 sur une ligne graduée allant de 0 à 5. Seuls 22% d'entre eux y sont parvenus. Mais cela n'empêche nullement ceux qui n'ont pas réussi ce test d'être aussi habiles que leurs camarades à utiliser toutes les fonctions de leur smartphone. Je ne suis pas loin de conclure en me demandant s'il n'y a pas là matière à réfléchir.
Merci Étienne Klein pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. L'équipe de la science CQFD, c'est Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Ève Etienne, Garance Prima Agnolo, Natacha Demoule, Clément Salézard. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Timothée Hubert. Vous pouvez nous écouter en podcast sur l'appli Radio France ou sur le site de France Culture. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Et souvenez-vous, rien n'est établi.